Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et à l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son qui est un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Et surtout avec l'invité de cette semaine, puisque je vous propose de découvrir le parcours de Norman Tavo, que vous connaissez sans doute par son pseudo Norman fait des vidéos sur internet. Après lui avoir fait raconter son histoire de daron en fin d'année dernière sur mon autre podcast, qui s'appelle bien sûr Histoire de daron, j'accouche cette fois-ci Norman de sa propre histoire de succès. Ensemble, on parle de son harcèlement scolaire quand il était au collège, d'une forme de revanche et d'envie de réussir qu'il en a tiré, des plâtres qu'il a essuyés en étant l'un des tout premiers youtubeurs en France. D'ailleurs, youtubeur, c'est un terme qu'il n'aime plus vraiment aujourd'hui. Et ça aussi, on en parle, de son virage entre guillemets de sa carrière dans le stand-up et aussi du décès de sa mère alors qu'il était encore tout jeune et comment il s'est reconstruit après ce sale coup que lui a réservé la vie. Un immense merci à Norman pour sa franchise. J'espère que vous apprendrez des trucs sur lui. Moi, en tout cas, j'en ai appris plein. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous dans votre appli de podcast préférée dès jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Norman. On est dans ce podcast qui s'appelle Histoire de succès, où on va parler de ton histoire de succès, n'est-ce pas ? Après avoir fait Histoire de daron, où t'as parlé de ton histoire de daron.
Bah déjà, je suis super flatté, parce que succès, c'est génial. Bah, jamais de ma vie, j'aurais cru un jour qu'on m'interviewerait pour mon succès, quoi. Trop cool.
Ok, il y a 10 piges peut-être, d'accord. Mais là, maintenant, je pense que quand tu regardes en arrière, tu peux te dire, ok, c'est bon, j'ai 2-3 succès derrière moi, non ?
Ouais, non, c'est clair qu'il y a 2-3 trucs, j'en suis super fier, mais en tout cas, sache que ton interview me flatte énormément quand même.
Ah bah, ça me fait plaisir, écoute. Et en fait, ça me fait aussi plaisir que tu viennes parler un petit peu de ton parcours, parce que j'ai jamais trop, je pense, entendu une interview un peu longue comme ça, où on va parler de ton parcours, de d'où tu viens. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Norman quand il avait 7-8 ans ?
À 7-8 ans précisément, quoi.
Tu vois, c'est un peu c'est pas vraiment t'es tout bébé, tu vois, 7-8 ans, et c'est pas encore vraiment t'es adolescent. Tu vois, c'est un peu entre les deux.
Ok. Bah écoute, de ce que je me souviens, à cet âge-là, je sais que j'étais assez, assez hyperactif. Tu vois, j'ai dans tous les sens, etc. Je faisais le con, et je sais que mon père me rappelle encore aujourd'hui, souvent, cette image, que quand j'arrivais dans la cuisine le matin, je faisais ma pièce de théâtre, qui disait, tu vois.
Ah ouais.
C'est-à-dire que j'aimais bien arriver dans le matin et crier fort et faire des blagues et faire le con. Et je me prenais des roustes, ouais. Donc j'étais déjà un petit con à cet âge-là. Et puis voilà, quoi. Écoute, moi j'étais, par chance, grâce à mes parents, déjà un peu drivé vers les disciplines artistiques parce que j'étais inscrit à l'école de musique très très jeune. Mon père était directeur d'un centre d'animation culturelle, donc je touchais un petit peu à la poterie, à la peinture sur soie, au théâtre, et puis donc à la musique. Donc c'était une super chance de pouvoir commencer si jeune. Et puis voilà, et en même temps un petit peu timide.
Est-ce que tu étais du style à faire un peu le clown pour justement masquer un peu ta timidité ?
Ouais, bah, je pense que c'est clair. Hein. Encore aujourd'hui, des fois... Des fois, je me cache toujours derrière un masque de clown comme ça. Et puis, quand il faut être terre à terre, sérieux et parler des choses qui sont profondes, qui font parfois mal, des fois, je mets plus de temps, quoi. Alors, j'enlève les couches petit à petit. Puis, à la fin, j'arrive enfin à être, tu vois, à être vrai, quoi. C'est... Même si, faire des blagues, c'est aussi être vrai. Hein.
Ouais.
Mais je pense. Mais en effet, oui, c'est forcément un masque et souvent une facilité et une fuite, quoi.
D'accord.
Et j'ai déjà l'impression d'être un petit peu en psychanalyse là. Donc, ça fera combien la séance ?
Non, mais j'allais te dire, on va faire en sorte d'enlever les couches petit à petit. T'inquiète pas, dans cette interview, on a un peu le temps, quoi, tu vois.
Et à la fin, je vais me mettre à chialer comme un ouf et.
T'es pas obligé de pleurer, horrible. Tu vois. Mais en fait, tu as une particularité aussi, c'est que tu viens du Nord.
Oui.
Et,
c'est vrai.
Et en fait, bah déjà, ça fait un point commun entre nous. On est deux enfants du Nord. Je pense qu'il y a un truc aussi qui vient de chez nous, tu vois, qui est un peu du romal. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En gros, on a appris depuis tout petit à en chier. Je sais pas ce que t'en penses.
Comment dire ? Il y a toujours plus enfance plus difficile que si on veut chercher à gauche à droite, hein, évidemment.
Oui.
Mais c'est vrai que voilà, le nord de la France est quand même une terre de has depuis longtemps. Franchement, voilà, chômage au max, alcoolémie au max. C'est clair qu'il y a du taf, quoi. Enfin, du taf. Il n'y a pas de taf, du coup. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair que voilà, nos grands-parents, ils en ont chié à fond, quoi. Moi, mes grands-pères étaient mineurs dans les mines de charbon. Et j'ai eu la chance qu'ils sont morts quand même assez âgés, tu vois, vers 75 ans tous les deux.
Ouais.
Et puis, mais quand ils me racontaient leur enfance, quoi, c'était mille Zola, quoi. Tu vois, c'était germinal, ça faisait mal au cœur, quoi.
Tu as l'impression que ça t'a marqué, toi, quand t'étais gamin,
c'est-à-dire que... La fois, je me faisais une réflexion, je me disais, est-ce que chez tout le monde c'est pareil ? Mais j'ai l'impression que moi, mon père, quand il me raconte son enfance, c'est toujours la misère de ouf, et genre, il a une enfance mille fois moins bien que la mienne. Et puis, quand son grand-père lui racontait son enfance, c'était encore mille fois plus miséreux. Et en fait, c'est les poupées russes, quoi. Ça se trouve. enfin, est-ce que ça existe un grand-père qui a une vie, qui a une enfance beaucoup plus cool que son petit-fils, tu vois ?
Bah ouais, c'est une vraie question.
Parce que c'est vrai que. Comment dire, on a plus le temps passe, plus on a un niveau de vie qui, on va dire, s'équilibre un peu, tu vois, pour les plus chanceux d'entre nous, on va dire. Et nous, par exemple, on est assez, enfin, de mon côté, je suis assez privilégié, tu vois, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Et quand je regarde un petit peu mes ancêtres, quoi, c'était vraiment hard. Enfin bref.
Ok. non mais en fait, ça m'intéressait un peu de savoir aussi, d'avoir un peu d'avoir ton avis aussi, tu vois, sur le Nord, tu vois, le Nord. Revenons un peu à ton parcours, parce que c'est vrai que tu disais que tes parents t'ont éclairé un petit peu à tout l'aspect artistique, etc. Tu joues quoi comme instrument à l'époque ?
Eh ben, j'ai commencé par faire beaucoup de solfège, donc c'est-à-dire l'apprentissage de notes de musique, mais sans faire d'instrument, ce qui était un peu relou d'ailleurs.
Ouais.
Et au bout de, je crois, 3-4 ans uniquement solfège, j'ai commencé le saxophone. Voilà. Et puis ensuite, quand je suis devenu ado, j'ai voulu me rebeller contre le saxophone et je suis passé à la guitare. Et voilà, j'ai fait la guitare sèche, la guitare électrique, puis j'ai monté plein de petits groupes.
C'est beaucoup plus simple pour emballer les meufs, non, la guitare sèche que le saxophone.
Ouais, je sais pas. Alors, c'est que moi, j'ai un truc sur le saxophone.
Ouais.
C'est que dès que je dis aux gens que j'en ai fait, il y a tout de suite des étincelles dans les yeux, genre putain, c'est un instrument magnifique, le jazz, la classe et tout, c'est Broadway, c'est la Nouvelle-Orléans. Et en fait, ça, c'est vraiment quand t'es au niveau maximum de level de saxophone, mais quand tu en joues un petit peu, c'est vraiment pas pareil du tout, quoi. C'est vraiment beaucoup plus moche, ça fait poète, t'es tout rouge quand tu souffles, franchement. Le saxo, c'est stylé quand tu le maîtrises, quoi.
C'est clair que ça fait partie des instruments qui sont... Le simple fait de réussir à sortir une note, déjà, c'est super dur, quoi.
Ah ouais, c'est vraiment dur, hein, franchement. Et comme le disait mon prof de saxo, tu vois, disons que le saxophone, c'est pas l'instrument que tu peux faire quand t'as de la fièvre, quoi. C'est quand tu te sens pas bien. C'est vraiment... c'est ton corps qui joue, tu vois. Quand tu fais du piano... Bon, c'est un instrument hyper technique, hein, mais tu peux jouer du piano quand t'as un petit peu la tête dans le cul, un peu malade et tout, guitare aussi, mais le saxo, si t'es pas full énergie, tu peux pas vraiment bien jouer, tu vois, donc c'est un instrument très physique.
Comment t'as l'impression que ça t'a marqué, ça t'a forgé cette éducation à la musique notamment ?
Bah, je crois que ça m'a donné une sensibilité, en tout cas, niveau de la zik déjà, tu vois, et puis je pense qu'à sensibilité artistique, tout se rejoint. Donc, dans l'image, dans la vidéo, dans la zik, enfin comment dire, c'est un tout quoi, tu vois. Enfin, un mec qui, je veux dire, qui joue dans un orchestre, etc. Je pense qu'il est pas insensible à la photographie, insensible à de grands cinéastes. Tu vois, tout ça, c'est, ça se ressemble, quoi. Tu vois.
Ouais, je vois bien.
Donc, en effet, je développais son oreille. Très vite, tu commences à avoir des discussions quand t'es adolescent avec des potes à toi en disant, putain, c'est marrant, la basse, là, elle joue en saccadé, puis la caisse claire, elle vient comme ça en contretemps. Tu trouves ça pas, c'est assez ouf, tu vois. Et tes potes qui n'ont pas fait forcément d'études de musique, ils sont, comment dire, insensibles à ça. Et d'un coup, il y a un petit clivage, quoi. Et, et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir être initié assez jeune comme ça à l'art en général, quoi. Okay. Donc aujourd'hui, moi, je suis sensible à l'art, tu vois, à fond, quoi. Même si, par exemple, j'ai fait des études d'art, donc j'ai eu une petite, comment dire, un éveil un petit peu à la peinture, tu vois. Maintenant, quand je vois des peintures de Caravage, de Courbet, tu vois, je m'y connais pas beaucoup, mais je peux vraiment être ému très vite par quelque chose, quoi.
Ok.
Je suis trop content de ça.
Ok. Ouais, t'as la sensation que cette éducation-là, t'as peut-être ouvert émotionnellement.
À fond, quoi. Et j'en suis très content, quoi, tu vois.
Ok.
Et par exemple, bon, bah voilà, pour faire un lien avec mes vidéos, même si c'est bon, on est moins dans une œuvre d'art avec, tu vois, au sens propre du terme, mais c'est quand même de la création.
Oui, bien sûr.
C'est quand même créatif, tu vois, les idées, elles s'entrechoquent. Il y a vraiment de l'artistique là-dedans, quoi. Et
bah oui.
Même si les gens le ressentent pas, bon, au final, c'est pas plus mal parce que. Moi, j'aime bien quand les gens voient une vidéo, qu'ils aient le sentiment d'être. De voir un truc facile à voir, léger, tu vois, agréable à consommer, et puis qu'ils aient pas le sentiment de voir un mec qui s'est pris la tête à faire un truc prétentieux ou trop plombant, tu vois, donc...
Ok.
Bref, voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah si, mais puis surtout, je pense que ton... Mais reviens peut-être à l'aspect clown dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu préfères peut-être faire... des blagues de prout ou des proutes d'aisselle, j'allais dire, pour tout, pas des blagues de prout. Je respecte beaucoup les blagues de prout.
Ouais, je vois que t'as une bonne image de mes vidéos, c'est cool. Mais
non, mais en fait, non, mais tu sais, je pensais prout d'aisselle, tu sais, vraiment, voilà quoi, tu vois.
Ouais, putain, maîtrise. Ce que je veux dire, c'est que même si quand je fais mes vidéos, j'ai le sentiment de faire quelque chose de vraiment d'artistique, même si les gens, en regardant la vidéo, ont pas du tout cette impression, tu vois, bah, ça me dérange pas du tout, quoi.
Ouais, ouais.
Tu vois, alors, j'ai pas l'impression d'être Shakespeare, ou voilà, ou Wes Anderson quand je fais une vidéo. Mm. Mais moi, j'ai l'impression de créer un truc, tu vois, avec des pinceaux, comme avec, je prends mes objets, je scotche des bouts sur le mur, j'ai l'impression d'être en plein choc créatif. Et les gens, ils voient juste une vidéo YouTube, ça les fait sourire, point barre, tu vois. Mais c'est pas grave, quoi. Enfin, ça me va.
Tu penses vraiment que... Ok.
Parce que les vidéos YouTube, ça, dans la tête des gens, ça résonne pas comme une œuvre d'art, quoi, tu vois.
Ah ouais, je comprends.
Au même titre que, par exemple, pourrait l'être de la musique, tout simplement, tu vois.
Ouais.
C'est vu un peu... Enfin, je trouve que ça a presque un peu mauvaise presse, tu vois, les vidéos YouTube... Souvent, ça sonne un peu télé-réalité. C'est pour ça que maintenant, quand on m'appelle YouTuber, bon, je m'en fous, mais ça me plaît pas forcément, quoi.
Ouais, ouais.
Ça sonne un peu gars de TikTok, Instagrammeur, influenceur. C'est un peu pour tout le monde le même bateau.
Ouais.
Alors que en vrai, quand on regarde certains Instagrammeurs, certains YouTubeurs, ils font des trucs de ouf. Putain, je leur rêve pas à la cheville et je les admire et c'est des vrais artistes, tu vois.
Mais enfin bon, c'est intéressant que tu. J'ai un peu l'impression que tu comment dire, tu t'auto-plombes tes propres créations, alors que tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, non, bah après, je comprends ce que je fais et tout.
Pourquoi t'es dur comme ça avec toi?
Je suis très fier de ce que je fais, mais je sais que, enfin, l'image que ça peut avoir, en tout cas aux yeux de certaines personnes, tu vois, aux yeux du grand public, que les vidéos YouTube, ça a un petit côté... Bah typiquement, tu vois, moi, quand je parle à des gens de cinéma... Quand j'ai commencé à faire mes premiers pas au cinéma,
ouais.
Enfin mes premiers et mes derniers d'ailleurs,
on dirait bien
tout de suite il y avait un vrai clivage où les gens disaient ah, calme-toi mec, t'es juste youtubeur, arrête de te prendre pour un acteur. Tu vois, ils mettent vraiment une frontière entre YouTube et le reste, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est d'ailleurs un peu désolant, hein, mais je sais que ça existe, quoi. Cette frontière, elle existe pour les gens. Entre guillemets, tu n'es que youtubeur, tu vois.
Ah ouais. Enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu avais envie de faire du cinéma aussi. C'était d'aller chercher une forme de reconnaissance de la part du public et peut-être des gens du métier du ciné.
Non, moi, j'ai rien cherché en particulier. Franchement, moi, j'y vais vraiment à tâtons, au feeling. Ouais. Quand on m'a proposé mon premier rôle, c'était donc un premier rôle. Je me rappelle, j'étais en plein boom de mes vidéos. C'était la deuxième année, tu vois. Et je reçois un mail de Maurice Barthélémy, ouais. Qui vient des Robins des Bois, dont je suis fan depuis que je suis tout petit.
Que j'ai interviewé.
Le premier rôle de mon film. Oui, c'est sûr. Tu vois, il n'y a pas de. Oui. Je réfléchis pas, quoi. Donc voilà, j'y vais comme ça, quoi, à l'envie, tu vois. Mais par exemple, aujourd'hui, si je voulais absolument être comédien, je me tuerais à faire tous les castings du monde, tu vois. Quand l'opportunité se présente, j'y vais avec joie de ouf. Et si l'opportunité, elle n'est pas là, c'est pas grave, je fais mes petites vidéos, je m'éclate aussi, tu vois.
Ok. C'est marrant parce que j'ai re-regardé ton Draw My Life pour démarrer faire cette interview qui date quand même de 2014 et j'ai la sensation
c'est vieux, oh là là,
que c'était il y a une éternité.
Oui.
Alors que en vrai pas tant, parce que t'as commencé à faire des vidéos sur YouTube en solo en 2010-2011, c'est ça?
En 2011 tout seul, ouais.
Et en fait, en 2008, sur Dailymotion, si je me trompe pas. Donc, en vrai, plus ou moins à la moitié de ton parcours, l'air de rien, par rapport à si tu prends 12 ans d'activité, n'est-ce pas? Et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dedans, c'est que tu as l'air de t'être pas mal fait bolos quand tu étais plus jeune.
Ouais, un petit peu, ouais. Bon, après, j'étais pas non plus la victime du village, hein. Mais
ça revient souvent dans ton Draw My Life.
C'est vrai, mais bon, chacun a son parcours, hein, chacun a son histoire, et c'est vrai que chaque épreuve, tu vois, tu retiens quelque chose, et puis ça te donne une leçon, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai exposé un peu dans mon Draw My Life, tu vois. J'étais pas non plus le sans ami absolu ou quoi, hein, pas de souci, hein, je vais pas me plaindre. Mais ouais, disons que j'ai un petit peu dans mon Draw My Life, j'ai mis un peu sur la table un peu mes faiblesses, un peu mes certains, peut-être pas traumatismes, mais bon, les obstacles de ma vie, quoi, tu vois. Mm-hmm. Parce que si tu commences à mettre à plat uniquement les réussites, c'est tout de suite moins intéressant. Et c'est aussi les obstacles qui font qui tu es, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Donc voilà.
T'as la sensation que ça t'a construit, le fait de t'être fait un peu bolos, de pas être le mec le plus populaire du collège ou du lycée?
Ouais, non, je pense que ça m'a construit. Tu vois, je pense que, par exemple, on aime naturellement faire rire et parce qu'on a envie de se faire aimer, par exemple, tu vois. Et si on a envie de se faire aimer, c'est parce que la reconnaissance, elle vient pas naturellement, tu vois. Donc, moi, n'ayant jamais été genre le gars populaire, j'ai toujours voulu un petit peu remonter en haut de la pile en étant le pote des gars populaires. J'étais toujours le bon pote des mecs un peu cool, tu vois, à faire des blagues tout le temps. Et du coup, ça me mettait un presque au même level qu'eux, quoi. Et donc ça veut dire quelque chose sur qui tu es, qui tu veux devenir, tu vois. Donc faire le mec marrant tout le temps ou la meuf marrante, je pense que ça en dit long, en fait, tu vois. C'est pas un hasard, quoi. Ça, on a envie de se faire aimer. Et moi, quand je fais mes vidéos aussi, hein, je sais que ça me donne une dose d'adrénaline et une dose de quelque chose dont j'ai besoin, de sentir tous ces gens qui me regardent et qui me valident. Je fais putain, j'en ai besoin, tu vois, quand je fais rien de créatif et quand je suis pas validé par plein de gens comme ça, maintenant c'est devenu presque une drogue. Quelque part, je sombre un peu, tu vois.
Ah ouais.
Je dirais pas que je déprime, mais tout d'un coup, il y a un truc qui me manque, j'ai envie d'amuser les gens et qui me rappelle de ah putain, c'est bon, je suis aimé par les gens, c'est cool, je peux continuer, tu vois.
Ok. Est-ce que t'as la sensation aussi que ça t'a donné envie de réussir, entre guillemets, dans la vie, de te faire bolos?
Bien sûr.
Ouais.
Il y a aussi toujours cette idée de revanche, je pense, sur la vie, tu vois. T'as envie de prouver à ceux qui t'ont un peu emmerdé, ceux qui t'ont cherché, aussi à toi-même, que ce dont t'es capable au max, tu vois. Donc à chaque fois, chaque étape, c'est un peu tiens, prends ça dans la face, quoi, tu vois. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il y a cette idée de prouver au reste du monde et à toi-même que tu peux aller loin, quoi. Mais bon, En vrai, bizarrement, tu vois, je sais que j'ai déjà rencontré sur mon parcours des gens qui ont voulu du mal pour moi,
ouais.
qui ont été des obstacles, qui ont été vraiment des gens, des traîtres, quoi. Et puis, t'as envie de leur montrer que t'es quitté, tu vois, t'as envie de leur faire fermer leur claque-merde, quoi, tu vois.
Ouais.
Et puis finalement, quand tu gravis les échelons quelques années plus tard, et puis que tu te rends compte qu'en effet, comme tu disais, tu montes un petit peu les marches d'un certain succès, finalement, t'en as plus rien à foutre, quoi. T'es passé à autre chose, t'es content, t'es super épanoui, mais en vrai, moi, j'ai pas cette hargne et cette volonté de me venger, elle s'efface très vite, tu vois.
Ouais, j'allais dire, tu l'as plus aujourd'hui, ou tu l'as encore peut-être pour d'autres gens qui te donnent un peu ce feu-là, ou ça s'est un peu estompé avec le temps?
Non, je crois que ça s'est estompé, tu vois, par exemple, car je te donne un exemple très simple, mais j'ai longtemps été stagiaire dans ma vie, pendant plusieurs années, tu vois, parce qu'à la fac, je me faisais un peu yèche, et moi, tu vois, je suis vraiment hyper actif, j'avais trop envie d'apprendre plein de choses, j'ai fait des dizaines de stages, quoi, tu vois. À chaque fois, j'allais à la fac pour récupérer des demandes de stages et tout, et puis, par exemple, j'ai fait des stages à la télé, et quand j'étais à la télé, les journalistes, ils se foutaient un peu de ma gueule, parce que je connaissais pas très bien les chanteurs un peu français, tu vois, bah... Voilà, sans tailler personne, mais c'était des chanteurs un peu populaires, un peu pourris, quoi, ouais. Tu vois, qui étaient de la musique de l'époque, qui sont déjà dépassés de ouf, là, tout le monde les a oubliés, tu vois.
Ouais.
Et je connaissais pas très bien leur nom et tout, et je me faisais tailler à mort par des journalistes qui me disaient, non, mais normal, lui, c'est un artiste, lui, c'est tout le monde se marrait dans la salle, tout le monde se foutait de ma gueule de ouf.
Cool.
C'était horrible comme image. Et je leur en ai voulu, et je me disais, ça, c'était justement un petit peu avant les vidéos, tu vois. Je me disais, au fond de moi, comme dans un vieux film américain de teenager, je me disais, putain, un jour, je me vengerai. Et ils verront qui je suis vraiment. Et puis, en fait, les années passent et les choses se font, ça se passe bien pour moi. Et puis, en vrai, j'en ai plus rien à foutre. J'y pense même plus à ces pauvres gars, tu vois.
Tu les as revus?
J'en ai revu certains, ouais. Mais je pense que j'ai pas la... Je suis pas un mec méchant, moi, tu vois. Je suis pas cruel ou quoi. En moi, j'aurais pu, comment dire... leur dire un petit mot, tu vois, pour les calmer, mais en plus ça fait trop pitié de faire t'as vu où j'en suis. Tu fermes bien ta gueule là, hein. c'est dur de dire ça.
Ouais, mais tu pourrais oui c'est dur de dire ça, mais tu pourrais avoir aussi envie de te venger, entre guillemets, que ça serait pas mal, quoi, tu vois.
Ouais, je comprends,
ça serait entendable,
mais bon, je suis pas trop comme ça, quoi. Disons que je suis satisfait d'avoir réussi certaines choses dans ma vie, mais je suis pas comment on appelle ça, rancunier, ouais. Ou quoi, je m'en fous.
T'es un bon gars, quoi.
Mais finalement, je suis un mec en or, moi.
Je suis un mec en or.
Le mec qui a un melon de ouf.
Je pense aussi que il y a un truc aussi qui, à mon avis, il y a un truc qui fait que t'as réussi comme ça aussi, c'est que les gens, ils sentent que t'es cool, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait,
ouais, bah écoute, c'est sympa de ta part.
Non, mais j'ai la sensation que de l'extérieur, t'as un vrai truc de boy next door, j'allais dire, tu vois, de mec... accessible et qui est cool, et en fait de t'entendre parler comme ça, en fait ça fait que confirmer parce qu'on se connaît un petit peu, mais on se connaît pas plus que ça, si tu veux, ça fait que confirmer un peu l'image que j'avais de toi, quoi. Donc je pense que ça peut aussi matcher avec ce que les gens ont en tête, quoi. Donc c'est plutôt cool.
Bah écoute, c'est déjà, c'est gentil, ça me fait plaisir. et puis oui c'est vrai qu'en effet, voilà, c'est vieux comme le monde, mais les gens aiment les gens simples, et c'est vrai que dès lors que t'es un poil prétentieux ou que tu pètes peu de ton cul, tout le monde le voit, quoi. Ça se voit, comme, tu vois, le nez au milieu du visage, et ça donne pas envie d'aimer la personne, quoi. Ça, c'est sûr, mais. Et même ceux qui font semblant d'essayer d'être proche des gens, enfin, ça se détecte. Enfin, moi, perso, je le détecte, et je déteste ces youtubeurs influenceurs qui ont un discours bien travaillé pour se faire apprécier et tout. Ça m'énerve, ça me rend fou. Parce que moi, je connais le game. Et je sais qu'en dehors, ils sont en manipulation totale des gens.
Ouais.
Les gros manipulateurs de troupeaux de moutons, tu sais.
Ouais.
Les gens vont aimer ça parce que les gens aiment ça. Si je fais ça, je vais avoir un max de clics et de vues. Je vais être liké. Putain, ça rend fou, mec.
Ouais, mais il y a aussi un autre truc, peut-être, mais ça, c'est peut-être un truc générationnel. C'est que t'as peut-être démarré toi à une époque où bah tu le dis notamment dans ton Draw My Life, c'est que t'as quand même fait des vidéos longtemps avant de commencer à gagner ta vie avec quoi.
Et, ah ouais, c'est clair.
Et je pense que aujourd'hui les mômes qui arrivent, alors je dis pas qu'ils sont pas animés par l'envie de faire des trucs cool aussi, mais c'est que en fait tu peux tout de suite et très vite en faire un vrai métier et donc de rentrer dans une forme aussi de calcul entre guillemets par rapport à tout ça, là où je pense à ton époque c'était moins le cas. Non, qu'est-ce que t'en penses?
Bah de ouf. À l'époque, faire des vidéos sur Internet, c'était même pas sur YouTube. Hein. Toi-même, tu sais, sur Dailymotion ou autre, c'était genre un peu bizarre, un peu innovant. C'est quoi ce mec chelou? Alors que maintenant, c'est une industrie extrêmement précise, tu vois. Alors, d'ailleurs, ça fait quelques temps que j'réfléchis à faire. J'ai envie de faire une petite vidéo YouTube ou un petit pic gentil à ces YouTubeurs ultra random. Tu sais, ils ont alors le micro apparent, le néon derrière sur le mur. Le t-shirt avec marqué un truc en japonais, les cheveux colorés, ils ont tous exactement le même style. Et j'aimerais bien, tu vois, bon, j'ai pas envie de me taper du cyberharcèlement de fanbase de youtubeurs qui sont trop vénères, tu vois.
Ouais.
Mais il y a comme ça vraiment une, comment dire, le métier de youtubeur est devenu ultra industrialisé, quoi. Mm. Et à l'époque, c'était beaucoup plus freestyle, quoi, tu vois.
On n'avait pas trop le choix, mais tu n'avais pas trop le choix non plus, parce que, bah, pour resituer un petit peu, mais tu démarres toi les vidéos en 2008 avec, sur Dailymotion, avec Hugo, et après avec, bah, très rapidement avec Kemar, non, c'est ça
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en fait, bah, à la base, vous êtes quoi? Vous êtes des potos de collège, c'est ça, de lycée avec Hugo, c'est ça?
Exactement, des potes de lycée avec Hugo, et puis même Kemar, qui était dans un autre lycée, mais on s'est connus à la même période. Puis voilà, quoi, en vrai, on cherchait tous les prétextes du monde pour faire s'éclater à faire des trucs marrants, quoi, tu vois. Donc, ça prenait des formes un peu pourries, parce qu'on cherchait à faire des mini-séries, des petites fictions, enfin, on sait pas trop, tu vois, on se cherchait au max, quoi. Après, très vite, j'ai compris que j'aime le plus au monde que d'exprimer des choses que je pense, qui m'amusent, et de les mettre en scène. Point barre, tu vois. Alors après, peu importe la forme que ça prend, quoi, mais voilà, on s'est pas mal cherché, on s'est bien éclaté, carrément.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas question de gagner des sous derrière, quoi.
Ah oui, non, c'est clair et net. C'est clair et net. Moi, c'est YouTube qui m'a appelé pour me prévenir que je pouvais gagner de l'argent avec mes vidéos YouTube. Tu vois, je me rappelle très bien, j'étais dans mon HLM à Montreuil, je faisais mes conneries, ça commençait un petit peu à marchouiller. Il m'appelle sur mon téléphone fixe, dis-toi.
Oh merde.
C'est vraiment à l'ancienne. J'avais un bon téléphone avec un fil. Et en fait, c'est, j'avais marqué ça dans ma fiche de renseignement de mon compte YouTube, quoi. Mm. Il m'appelle. Oui, bonjour, c'est YouTube France. Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner de l'argent avec vos vidéos en tant que YouTube partenaire? Non. Alors, j'ai suivi la démarche, puis j'ai vu le premier revenu, genre, qui devait être de, je sais pas, 300 euros, je crois.
Ouais.
Et là, mon pote, j'ai bien appelé mon maître de stage, j'ai fait Nico Mouk. Non, qui en plus était un maître de stage super sympa en plus. Donc,
parce qu'à l'époque, donc t'étais en stage, pour expliquer aux gens, mais t'étais en stage, c'est ça? Donc tu.
Ouais, j'étais en stage. Bon, d'ailleurs, c'est une boîte de prod super sympa. Hein. Très artistique. Je me sortais bien, mais j'étais simple stagiaire, tu vois. J'avais pas du tout fait mes preuves, etc. Puis j'ai vraiment fait mes preuves ailleurs, quoi, en parallèle.
Ouais.
Puis ça avait rien à voir. C'était d'un côté un truc un peu sérieux, tu vois, et de l'autre côté, c'était vraiment la. Bah pour moi, c'était la cour de récré, quoi. YouTube, je faisais juste ce que je voulais, quoi.
Comment tu décides à te lancer tout seul? Parce que j'imagine que entre être dans le velcro et puis te lancer tout seul, c'est déjà pas le même, c'est sans doute pas le même délire, non?
Bah carrément. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, on était vraiment donc un petit crew. Et puis moi, vu que voilà, je venais d'un petit parcours audiovisuel, c'est moi qui filmais, c'est moi qui montais. J'étais vraiment très motivé. À chaque fois, j'appelais mes potos, ils étaient motivés aussi, mais je prenais plus les rênes de chacune des vidéos, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et on faisait des vidéos, donc 10, 20, 30. Et au bout d'un moment, je voyais que les gars, ils commençaient un petit peu à se lasser, ce que je peux comprendre. Putain, et moi, j'avais trop envie de faire des trucs. Je voyais les Ricains, je voyais Cyprien à l'époque, Monsieur Dream. Qui cartonnait, puis faisait des vidéos qui m'éclataient, tu vois. D'ailleurs, j'en avais parlé, il m'avait dit, bah mec, en parallèle, t'as qu'à faire ton. Bah, à l'époque, on disait ton blog. Il me disait, fais ton blog en parallèle, ça coûte rien et tout. Bref, ça me titillait de plus en plus. Et en fait, si je suis passé de Dailymotion à YouTube, c'est pour une raison très simple. C'est parce que je voulais pas mélanger les pinceaux. Et YouTube, c'était, comment dire, c'était pas la terre promise à l'époque. C'était limite un site moins populaire que Dailymotion.
Non, mais clair.
Donc, je me suis dit, je vais faire une chaîne qui s'appelle Norman fait des vidéos.
C'était même pas traduit en français, non, en plus, à l'époque, je pense. Ou c'était déjà traduit en français à l'époque?
Je sais même plus. Si, je crois que c'était quand même traduit.
C'était quand même traduit déjà.
Ça a commencé. J'ai fait Norman fait des vidéos vraiment pour créer une distinction entre moi tout seul et mes vidéos avec les gars sur Dailymotion, quoi. Et j'avais peur qu'ils prennent la mouche en plus, que, tu vois, je me dis, si les vidéos commencent à cartonner, ils vont peut-être être vénères et tout. Bon, bref. Et puis finalement, ça a explosé immédiatement.
mais quasiment immédiatement, non. En fait, tu dis, tu ris, mais t'as fait quoi? T'as fait ta première vidéo, c'était sur le ping-pong, c'est ça?
Non, mais franchement, oui, hein. Dès la première vidéo, le ping-pong.
Le ping-pong, elle a plutôt bien schémar, mais pour moi, celle qui a vraiment fait que t'as cartonné. Je sais pas comment tu le vis, toi, de l'extérieur, mais moi, enfin, de l'intérieur, mais moi, de l'extérieur, c'était vraiment les bilingues.
Ouais, ouais. En vrai, les vidéos sur Dailymotion, ça faisait genre 10 000 vues, 15 000 vues.
Ouais.
Et puis le ping-pong, ça a rapidement fait 300 000 vues. Donc déjà, ça fait un truc de ouf. Hein. C'était n'importe quoi, tu vois, pour moi. Et chaque nouvelle vidéo faisait sort plus de vues. Et quand j'avais fait les bilingues, ça devait être peut-être, je sais pas, la cinquième vidéo, ça a claqué le million de ouf. Et ça, en effet, ça a tout lancé, quoi.
Waouh.
Waouh. Fumigène.
Et ouais, donc là, tu te rends compte que tu peux vraiment commencer à gagner ta vie et à te lancer là-dedans et en faire ton métier, en fait.
Ouais, ouais. Je me rappelle avoir donné une première interview à l'époque à Technicart, m'avait fait un petit coup de salaud dans le dos.
Ah bon?
Parce qu'en fait, ils cherchaient absolument pas à s'intéresser à mes créations, ni à mon monde, s'intéresser à la technique de gagner de la thune avec YouTube. Et en fait, on était vus comme les gars qui avaient trouvé un cheat code et une astuce pour gagner de la thune facilement.
Ah, oui.
Pour tous les flemmards qui veulent gagner de la thune, faites comme Norman, tu vois.
Putain.
Ce qui a la fâcheuse tendance de beaucoup m'agacer.
Ouais.
Et ils m'appellent et cherchaient absolument à savoir combien je gagnais avec mes vidéos. Tu vois, c'était au début. Et puis, tu sais, j'essaie d'esquiver la réponse, j'esquivais. Puis à un moment donné, je lui dis, frérot, tu ne le dis pas dans l'interview, hein, mais voilà... je sais plus, je gagnais 1000 euros par mois, tu vois. Ça, c'était à l'époque. Et il fait, ouais, t'inquiète, etc. 3 jours plus tard, un SMIC en 3 minutes, grâce à Norman fait des vidéos.
Wow.
Et là, il dit, tu vois, et genre, le gars m'a fait un vieux coup dans le dos et c'était ultra réducteur de dire un SMIC en 3 minutes. Parce que la vidéo, elle fait 3 minutes, mais t'y as pensé, tu l'as travaillé pendant peut-être 2-3 semaines. Enfin, puis bref, c'est complètement con de dire ça, tu vois. En plus, en vrai, c'est pas un SMIC parce qu'en vrai, tu payes tes charges et tout. Bref,
oui.
Le gars disait n'importe quoi sur n'importe quoi. Mais c'était très crapuleux et très, tu vois, mesquin de sa part. En plus, il m'avait juré qu'il le dirait pas. Et puis du coup, ça m'a vachement rabaissé. Et dès ce premier article, j'ai commencé à dire, ah, ok, les médias et les journalistes peuvent être des bons petits cons. Et j'ai commencé à fermer ma gueule.
Voilà. Mais vraiment, de cette là, t'es devenu méfiant, c'est ça?
Ouais, j'ai commencé à. Enfin, là, c'était, comment dire, un premier petit coup de sevis, mais il n'y a eu que ça, quoi. Les gens, c'est des petits fourbes.
Ok. C'est quoi le problème entre les médias et les youtubeurs avec l'argent, d'une manière générale? C'est fou, non?
Bah ouais, je te dis, on a toujours été. Alors maintenant, ça commence à se démocratiser parce que le temps passe, c'est devenu. Ça fait 10 ans maintenant, tu vois, ça commence à être long, hein. Donc tout ça s'est calmé, c'est devenu normal de faire de la promotion, des collabs, voilà, chose qui est comme installée aux États-Unis depuis 10 ans, tu vois. Nous, on commence enfin depuis 2-3 ans à ce que ce soit un peu plus admis, tu vois.
Mm-hmm.
Le simple fait de faire une pub pour, je sais plus quoi, pour une application sur son smartphone en début de vidéo, tu vois, c'est un truc maintenant qui est normal.
Mm-hmm.
Putain, mais il y a 5 ans, ça aurait été impossible de voir ça, quoi. Bref. Et les médias, en tout cas la télévision, vu que c'est un peu un vieux média, ils ont toujours cherché à nous montrer comme je t'ai dit, un cheat code, un truc et astuce, une petite technique pour se faire de la thune sur Internet, quoi.
Ouais, ouais.
Et en évinçant complètement l'aspect artistique, et alors que c'est vraiment l'aspect artistique qui fait que ça marche et qui fait que tu en gagnes ta vie, en fait.
Mm-hmm.
Ils font le chemin dans le mauvais sens, tu vois, ils voient les pépettes. Alors que c'est le résultat d'eux, quoi. Enfin bref.
T'as dit les pépettes, mec.
J'ai dit les pépettes.
T'as 95 ans, quoi.
J'ai 33 piges, les amis. Putain, j'ai dit les pépettes, mais j'avais jamais dit les pépettes de ma vie. Je sais pas pourquoi ça m'arrive là.
T'as vraiment pas dit, j'ai vraiment jamais dit les pépettes avant ça.
Mec, je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai dit les pépettes. Enfin, bref.
Ouais, je vois bien. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, c'est des questions qui posent jamais à des acteurs, tu vois, ou à des réalisateurs qui viendraient sur des plateaux. Et systématiquement, ça continue, quoi. C'est fou.
Ah ouais, ouais. Puis c'est vu presque un peu comme honteux, comme argent facile, quoi. Alors que je t'en sors, moi, des métiers d'argent facile. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça me rend ouf, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Franchement, que ce soit moi ou mes confrères youtubeurs, youtubeuses, on a tout essayé pour essayer de les casser en plateau. Alors, un coup, on disait qu'on dirait pas. Un coup, on se moquait d'eux. Un coup, Cyprien, il leur demande « Bah toi, tu gagnes combien, tiens ?» Et le gars, il se sent mal à l'aise. Ou un coup, on leur a dit « Bah, on gagne moins que les chroniqueurs qui sont tous réunis actuellement autour de la table. » Enfin, on a toujours trouvé une réponse un petit peu pour les casser, pour leur arrêter de nous emmerder, quoi. Mais en vrai, bon, il n'existe pas de réponse parfaite, je crois. On n'a jamais réussi. Moi, la dernière en date, c'est quand on me demandait ça à la radio, combien vous gagnez, je disais, je te dis pas. Elle était comme une couillonne. Non, mais sérieux, non, je te dis pas, non. Et après, elle passait à autre chose en rigolant. Parce que c'est la meilleure réponse.
Bah ouais, mais. Et en fait, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de continuer à vous voir, les youtubeurs, aller sur ces. À la télé, notamment. Parce que peut-être qu'en fait la meilleure façon de faire, c'est encore de pas y aller, non?
Bah ouais, c'est clair, mais moi j'ai l'impression d'être un peu, tu sais, un peu comme dans ces combats à la Game of Thrones où il y a toujours un mec qui part en premier en mode charapaté qui va se faire défoncer la gueule. Bah ça c'est moi dans l'univers de YouTube. J'étais le premier, je me suis pris tous les coups dans la gueule pour tout le monde et tout le monde a fait ah ok, bon bah dans ce cas-là on va faire la même erreur. Et après, les gens ont tous réussi au max. Et ben moi, je me suis pris les coups à la télé, je me suis pris les coups au cinéma, je me suis pris les coups dans la presse, voilà. Donc, maintenant, je sais que YouTube, c'est vu un peu comme un média un peu anarchiste. Alors, les gens, ils sont super contents. Par exemple, PewDiePie, c'est le mec, il est que sur YouTube. Il donne pas d'interview, il est à nous. C'est une création de YouTube qui vient directement dans ma chambre, dans mon iPhone. Et dès qu'ils voient les youtubeurs à la télé, il y a un côté, ça démystifie un peu le gars, tu vois, ça, ils se sentent un peu, les gens, c'est moins leur propriété tout d'un coup, et ça rend le gars un peu mainstream, tu vois, et je peux comprendre, hein. Moi aussi, j'ai ce sentiment quand je vois, par exemple, un youtubeur que j'aime bien. On a un peu ce même sentiment avec des rappeurs. Je sais pas si tu suis, par exemple, tu vois, par exemple, Lafouine, il a eu un peu son âge d'or.
Ouais.
Puis quand on l'a vu chez Michel Drucker, un peu partout à faire sa promo, on a fait « Ah putain, il y a moins de street cred là, tu vois. » C'est con, hein, mais on a presque envie de dire il perd un peu de valeur à nos yeux, alors que le gars, finalement, artistiquement, il a pas changé, tu vois.
Ouais.
Enfin, j'en sais rien, je connais pas très bien ce que fait Lafouine, mais ça peut un peu abîmer, donc, du coup, en tant que youtubeur, d'aller un peu trop dans tous les médias. Alors, moi, pour mes spectacles, j'ai dû le faire, tu vois, pour la promo. Alors, même si j'ai la chance d'avoir une super boîte de prod qui me laisse faire ce que je veux, mais qui me disait quand même « Bon, Nono, tu fais quasiment qu'une télé, fais-en une ou deux quand même, tu vois. » Donc, je l'ai quand même un petit peu fait, tu vois. Mais si je pouvais en faire aucune, moi, je déteste faire... Toi, là, toi et moi, on fait un petit podcast ultra cool, je suis trop content de le faire. Mais la même chose dans une téloche ou quoi, ça me met super mal à l'aise, j'ai pas du tout envie.
Ok. Ah non, mais je comprends. Mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que t'as essuyé tous les plâtres.
De ouf. Parce qu'en plus, en ce moment, je regarde la série Viking et j'ai repensé là, il y a une scène, c'est exactement As. Le mec, en gros, il veut mourir au combat et il a un bras en moins et tout, enfin, il va mourir bientôt. Et il dit au chef de clan, bon mec, écoute, je passe en premier, je me fais bousiller et après vous y allez, d'accord? Et j'ai cette image du mec qui arrive dans la vallée comme ça, c'est vraiment wham pendant mes débuts sur YouTube, quoi.
Ouais, mais en même temps, bah, t'es aussi. Comment ça se passe entre la bagarre entre Cyprien, Squeezie et toi là, en termes de nombre d'abonnés, je suis plus à jour.
Ah.
Non, parce que
bah, en fait,
je disais ça parce que l'air de rien, t'es aussi l'un des plus gros en France, quoi, tu vois. Donc forcément, ça se comment dire, ça se paye entre guillemets, quoi, tu vois.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sans rien. Et même, j'ai l'impression que quand une vidéo à moi crée une légère petite polémique et tout, des fois c'est peut-être aussi c'est gage aussi d'avoir frappé au bon endroit, tu vois. Donc j'ai plus peur de ça. Bah écoute, oui, c'est vrai que en termes d'abonnés, Squeezie c'est le numéro 1, après c'est Cyprien et après c'est moi.
T'es 3.
Mais bon, après c'est assez relatif parce que tu vois, Squeezie s'est concentré à 3000% sur les vidéos YouTube, il en sort énormément, ouais. C'est vraiment son, il ne fait que ça. Cyprien il se diversifie un petit peu depuis quelques années. Et moi, je suis carrément parti en couille dans tous les sens. J'ai fait deux spectacles, j'ai fait des films, j'ai fait des trucs. Même si j'adore toujours YouTube, quoi.
On va y venir, mais on va y venir à ton spectacle, parce que c'est un pan de ta carrière qui est hyper intéressant. Je voulais juste revenir avant ça sur tes dernières vidéos là, que t'as fait depuis le confinement. Et en fait, c'est marrant de te retrouver un peu comme à tes débuts, en fait, l'air de rien. Avec dans ton appart, alors t'es plus dans ta chambre désormais, mais t'es dans ton appart, et en fait j'ai un peu l'impression que tu reviens un peu à des projets un peu moins ambitieux techniquement, et parce que notamment les dernières vidéos que t'as pu sortir sur ta chaîne, elles sont, enfin on sent qu'il y a une prod, qu'il y a
je suis
dessus, pardon. Mais ouais, j'avais un peu la sensation que les dernières vidéos que tu as pu sortir, elles étaient très, très ambitieuses, quoi. Tu sens qu'il y a une équipe, etc. T'as aussi, je mettrai tous les liens dans les notes, mais tu as aussi la série que vous avez faite avec Ludovic sur le talisman, où là, pour le coup, c'est une vraie mini-série. Tu as monté plein de projets avec une vraie équipe, l'école des vampires, etc. etc. Et là, d'un coup d'un seul, tu te retrouves tout seul ou presque avec ta chérie en guest, et puis c'est à peu près tout. Ça te fait plaisir de revenir un peu à une forme de simplicité entre guillemets par rapport à ça?
Écoute, carrément, ça me fait super plaisir. En fait, ce retour un petit peu à la base, il s'est un peu imposé avec le confinement. En fait, toi, j'ai pas eu le choix. Maintenant, j'ai un décor qui a été fait spécialement pour moi, tu sais, dans mon network chez Webedia et tout, un truc trop stylé. J'ai des équipes qui sont mon équipe habituelle, quoi, qui filment, qui prennent le son et tout. Et là, avec le confinement, c'était soit je fais pas de vidéo pendant des mois, soit je le refais à l'ancienne avec mon iPhone, quoi. Et finalement, je l'ai fait. Et putain, ça a cartonné. Là, j'ai fait 3 vidéos j'ai fait des scores que j'avais plus fait depuis très longtemps.
Ouais, t'as fait
j'ai atteint 12 millions d'abonnés. J'ai pris 200 000 abonnés en 2 mois.
À chaque fois, plus de 5 millions de vues aussi. Et en fait, peut-être ça peut paraître dérisoire, mais c'est fou à quel point c'est fou à quel point c'est dur aussi, j'ai l'impression aujourd'hui, de percer sur YouTube par rapport à il y a quelques années, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah c'est clair. C'est clair parce que tout simplement on était beaucoup moins. Franchement, les gens qui voulaient se lancer sur YouTube au début, en vrai j'étais l'un des premiers, quoi, avec Cyprien, il y avait Yvick, enfin. Et puis maintenant, je sais pas, ça se compte par milliers, par dizaines de milliers, les nombres de youtubeurs. Moi, tous les jours, je découvre un nouveau youtubeur qui a plus d'un million d'abonnés. Alors, je sais pas combien il y a de youtubeurs à plus d'un million d'abonnés, ou youtubeuses, hein, mais c'est hallucinant, quoi. Tout le monde est connu. On dirait, dans un monde, tout le monde est connu. C'est trop chelou. Bon, bref, ça enlève rien à la qualité de ce que font certains, quoi. Mais du coup, comment tu veux percer quand t'as déjà... t'as déjà 100 000 youtubeurs qui ont tous des millions d'abonnés, quoi. C'est ça doit être très très dur, quoi. Donc je pense qu'il faut encore plus être original, encore plus avoir un ton qui faut encore plus travailler fort, quoi. Donc je dirais que c'est encore plus difficile aujourd'hui de percer. Ceux qui arrivent, ils ont vraiment de la chance et du talent.
Et tu, est-ce que tu crois aussi que bah, c'est peut-être le fait que tu parles de confinement qui est un peu le truc qui réunit tout le monde aujourd'hui, c'est à peu près sûr et certain quoi. Mais est-ce que tu crois aussi que le fait de revenir à une prod plus à l'ancienne a contribué à ce succès ou pas?
Ah ouais, je pense complètement, mais je crois que c'est vraiment un peu un drôle de hasard, un peu paradoxal, parce que on est dans une situation de confinement un peu relou, qui fait chier tout le monde. Beaucoup de gens ont été handicapés pour aller travailler, etc. Et bizarrement, moi, du coup, ça s'est imposé à moi, donc j'ai fait mes vidéos avec mon iPhone. Et puis du coup, j'ai traité de ce qui m'intéressait, c'était de parler de ça, quoi. Je me voyais mal parler des chaussures, tu vois. Donc, faire un podcast sur un sujet lambda, non, je voulais parler de ça. Et donc, du coup, le sujet intéresse tout le monde, et moi aussi. Donc, du coup, comme il est actuel, il y avait un côté un peu authentique de faire ça. Et le fait de me filmer vraiment à la maison avec mon iPhone, c'est encore plus authentique, quoi. Donc, du coup, ça a fait un peu combo d'authenticité. Combo d'authenticité, voilà. Et je pense que ça a fait mouche, quoi. Alors, du coup, moi, j'ai sorti mes trois dernières vidéos, et j'étais content de ce que j'avais écrit, tu vois, des remarques que je faisais. Je me disais, tiens, j'espère que c'est marrant, c'est blague. Alors, je demandais à mes potes, est-ce que t'as trouvé mon traitement intéressant? Et tout le monde a la même réaction. Putain, c'est trop cool que tu te filmes chez toi à l'ancienne. C'est sympa, mais est-ce que t'as aimé le ton que j'ai pris, politique et tout, mon point de vue? Eh mec, tu te filmes dans ton salon, c'est trop bien, c'est comme à l'ancienne. Et en fait, les gens, ils retiennent que ça, c'est trop bizarre. Mais ça revient un peu à ce que je disais au début de la session. Moi, ça me va si les gens, ils ont juste une good vibe sur la vidéo, peu importe ce qu'ils ont retenu, tant que ça leur a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, j'ai aussi fait des vidéos pendant le confinement ultra nulles qui ont complètement bidé. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas que la forme de se filmer à l'ancienne qui fait que ça marche. Hein. Par exemple, j'ai fait une vidéo que j'ai supprimée depuis d'ailleurs, où je parle un petit peu à des abonnés sur Omegle, tu sais.
Ah oui, oui. Ouais.
Une sorte de chat roulette. Ouais. Et j'ai fait ça, voilà, où je me filmais et tout. Et puis, je parlais du confinement. J'interviewais, entre guillemets, des gens sur Omegle. Donc, je tombais que sur les abonnés, en fait. Donc, bon, bah, c'était cool. Et en vrai, c'était pas trop intéressant parce que très vite, on était un peu dans un truc, comment dire, de meet-up, tu sais, où les gens, surtout quand c'était des jeunes, ça criait un peu. Puis, j'arrivais pas. Moi, je leur posais des questions très sérieuses. Et puis, eux, ils avaient du mal à. Je sais pas comment expliquer, c'était très en surface en fait.
Ouais.
Tu vois, on n'arrivait pas à avoir une discussion comme on a toi et moi. C'était un peu en mode gros délire, je pète un câble. Bon, on se fait chier, mec, toi aussi. Bon, c'est cool, allez, ciao. Et puis même moi, je posais pas les bonnes questions en vrai. J'ai mal interviewé les gens, j'étais pas bon. Et bref, cette vidéo, elle a fait un méga bide quoi.
Okay.
Tu vois, elle a fait 1 million de vues, 1,5 million, ce qui est déjà super. Hein. Mais bien loin des 6 millions de autres vidéos quoi.
Ah ouais.
Et du coup, je l'ai carrément supprimé, en fait.
Ok.
Donc, c'est pas parce que c'est le confinement et que j'ai fait des vidéos à l'iPhone à l'ancienne que ça marche forcément. Tu vois, il faut que le sujet aussi, ça parle aux gens, quoi.
Et pourquoi t'as décidé de la supprimer parce qu'elle elle te convenait pas de cette-là?
Bah, du coup, là, on va pas se mentir, déjà, ça a marché beaucoup moins. Donc, si je me dis, si une vidéo intéresse pas les gens, pourquoi elle est sur ma chaîne, tu vois? Ouais. Et puis. Finalement, voilà, après coup, j'ai regardé plein de fois, je me dis putain, c'est pas du tout dans la continuité de mes vidéos sur YouTube. À chaque fois, j'essaie de parler d'un sujet, j'essaie d'être intéressant. Puis celle-ci, elle était assez creuse finalement, tu vois.
Mm-hmm.
Donc j'ai fait, allez, nique ça, reste, je l'enlève.
Ok. Non, je te pose cette question parce que j'aime bien justement le fait que tu aies gardé la plupart de tes vidéos. Alors je sais pas si tu as regardé toutes tes vidéos de ce fait-là parce que j'avoue que j'ai plus tout l'historique, mais j'aime bien le fait que tu aies gardé les vieilles vidéos. J'ai notamment retrouvé une vieille vidéo où t'expliques comment laver un fat boy.
Putain, cette vidéo, elle est improbable.
Avec ton coloc de l'époque.
Ouais.
Et en fait, je trouve que c'est cool que tu aies encore cette vidéo-là sur ta chaîne parce que ça prouve aussi, je pense, tu sais, d'où tu viens, quoi, tu vois. C'est plutôt cool.
Bah, c'est clair que maintenant, vu que YouTube, c'est vraiment... Maintenant, ça commence à être un peu vieux, quoi. Ceux qui ont commencé comme moi il y a longtemps, c'est vrai que quand tu retournes dans leur historique de vidéos, tu vois limite leur... c'est presque une biographie de ce qu'ils ont fait dans... Tu vois
ouais.
Moi, il y a des YouTubeurs que j'avais pas regardé depuis des années, je suis allé m'amuser un peu à regarder les Américains une fois, et je retombe sur leurs vieilles vidéos, et putain, ils ont des gueules de bébés, tu les as vus grandir avec les vidéos, en fait. Et c'est ouf, tu vois.
Bah,
je pense que c'est comme un...
T'as aussi une gueule de bébé, toi.
Ah ouais, non, c'est clair. Moi aussi, j'ai... Putain, J'avais une gueule de bébé, puis là, j'ai bien vieilli, c'est sympa. Mais c'est vrai que, ouais, maintenant, ceux qui ont commencé comme moi il y a 10 ans, tu vois clairement l'évolution, et c'est comme un... Comment on appelle ça? C'est un trombinoscope, limite, comme en cours, où tu vois chaque année l'évolution du gars, et c'est presque un peu touchant, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Peut-être que... Regarde, je dis n'importe quoi, mais bon, moi, je valide pas ce genre de pratique, mais... Enfin, pour l'instant, en tout cas. Les Instagrammeurs qui font des comptes Instagram à leurs enfants qui ont un mois, par exemple. Je me dis, putain, mais peut-être le gamin, il va grandir. Quand il aura 5 ans, il va commencer à prendre son compte Insta, 10 ans. Et en fait, le mec, un jour, il va mourir. Et t'auras son compte Insta de son premier mois à ses 70 piges. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi.
T'imagines ? Il y avait aussi un aspect dont je voulais parler avant de parler de ton spectacle, mais il y a, alors je sais pas trop si t'es à l'aise d'ailleurs pour en parler ou pas, mais moi il y a un truc qui me fascine aussi dans ton parcours, c'est la capacité que vous avez eue à créer à un moment donné cette régie publicitaire qui s'appelle toujours Mixicom, non c'est ça, non qui s'appelait Mixicom, c'est ça, ça a changé maintenant de nom.
Ouais c'est ça. Ça s'appelait, en fait ça s'appelle Mixicom, et Mixicom maintenant fait partie de Webedia en fait.
Voilà. La boîte a été rachetée par Webedia il y a quelques années. Mais en fait, je trouve que c'est... Là, pour mettre... vous avez réussi... Alors, si je ne me trompe pas, il y avait Cyprien dans la création de la boîte, c'est ça ? Vous vous êtes associé avec quelques YouTubeurs pour créer cette boîte ?
Oui, voilà. Bah, à l'époque, c'était donc Cyprien, Squeezie, moi et Mexicom. Enfin, si je dis pas de bêtises, si j'ai oublié personne, on s'est associé pour créer ça, quoi, tu vois. Mais pour être très honnête, c'est surtout... Enfin, moi, j'ai tendance un petit peu à être un suiveur dans la vie, et c'est vrai que c'est Cyprien avait bien pris les rênes du projet, quand même.
Ok.
Cyprien et Thierry Boyer, okay. qui est à la tête de Mixicom. Et du coup, moi, ils m'ont un petit peu, comment dire, mis sur la table le truc déjà prêt, tu vois, et j'ai juste fait, ah, putain, c'est vraiment une super idée, let's go, tu vois.
Ok.
Mais bon, je m'approprie pas le truc alors que, tu vois, j'ai...
Ah, mais en fait, pour moi, c'était plutôt l'idée de se dire... Enfin, je trouvais ça intéressant de se dire qu'à un moment donné, t'avais aussi participé à une forme de structuration, entre guillemets, du marché pub Internet, quoi, tu vois. Alors, je sais pas trop si c'est, d'ailleurs, vraiment ton... Comment dire, ton dada ou un truc qui t'intéresse, l'aspect business.
Oui, ça m'intéresse un petit peu. Alors après, faut pas non plus. Enfin, dans mon cas, si j'y vais trop, après, j'ai du mal à, tu vois, à rester frais pour trouver des idées, ouais. Et tout, quoi, parce que le business, ça, quand même, ça ronge un peu des fois l'artistique.
Ouais.
Mais oui, ça m'intéresse, c'est clair.
Ok.
Je sais que par exemple, je me suis souvent associé avec des gens qui ont beaucoup de talent et qui m'ont beaucoup aidé. Je pense par exemple à Rémi Cello avec qui j'ai commencé, qui a commencé un petit peu à manager tout ce que je faisais au début des vidéos. Mmh. C'est toujours un pote d'ailleurs, malheureusement, on se voit un peu moins en ce moment, mais et lui, voilà, il était très très entrepreneur dans plein de choses. Il avait sa boîte, il avait un passif d'informaticien très connecté, très high tech, et très vite il a su me guider. C'est lui qui a écrit la publicité Norman, enfin Crunch sur Norman de sa chambre autour du monde. Qu'on a faite et qui a été un super succès, ils ont eu un prix et tout. Et il a carrément créé la régie publicitaire d'M6 à l'époque.
Ok, je savais pas. D'accord.
Que j'ai rejoint fut un temps. Enfin, tu vois, c'est des gens qui sont quand même des petits génies, quoi. Et en vrai, je vais pas m'accaparer leur talent parce que c'est grâce à l'accumulation de ces gens-là que j'en suis là aujourd'hui aussi. Donc, souvent, l'aspect business vraiment pur et dur, souvent, je l'ai un petit peu délégué, ouais.
Ok. C'est pas forcément un truc qui t'intéresse ou qui t'attire, quoi.
Moi, j'aime plus en parler, et puis j'aime bien, comment dire, être à la base des idées, tu vois, à la source des idées. Si on faisait ça, si on lançait ça, si on testait tel truc, après mettre en œuvre, etc., je pense que c'est aussi un... Enfin, il y a des métiers pour ça, tu vois, et pas forcément le mien.
Ok, d'accord. Parlons de stand-up. Parce que c'est fou, quand même. Dans ta vie, à un moment donné, tu t'es dit tiens, je vais passer de derrière la caméra et dans un studio ou dans ma chambre ou je ne sais pas où, sortir voir des vrais gens et en fait tester aussi mes blagues et parfois prendre des bides, alors que tu sais que si tu fais une blague qui marche pas sur YouTube, a priori personne, enfin tu vas pas le savoir, en tout cas les gens vont pas réagir face à toi. Qu'est-ce qui te donne envie de monter sur scène? Alors, pour reprendre un peu l'historique, mais c'était quand? C'était il y a 4-5 ans, c'est ça que tu as commencé à...
que t'as fait ton... ça devait être en 2014, je pense.
C'est ça. Je ne sais.
Ça fait un peu plus du coup. Ça fait six ans. Les tout débuts, c'était il y a 6 ans, ouais. Après, ça a mis du temps à se mettre en place parce que j'ai commencé à tâtons, tu vois.
Qu'est-ce qui te donne envie à l'époque?
Mais en fait, moi, j'ai toujours été en admiration devant les stand-uppers, les comics. C'est un truc qui m'a toujours attiré, tu vois. Mais je pense que rares sont les gens qui se sont dit, étant petit, putain, je vais être stand-upper, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Je pense que ça vient aussi avec la force des choses. Et puis, surtout quand tu dis à tes parents, je vais être humoriste, tu vois, c'est un peu chelou quand même. Faut avoir les coronets, hein.
Ouais.
Et puis, moi, j'ai fait mes vidéos sur YouTube et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, je me dis, tiens, mais en fait, je suis en train de devenir humoriste, entre guillemets, quoi. Ce que je fais, c'est toujours axé comique, c'est tout le temps des blagues, c'est ce que j'aime faire. Et en fait, je suis devenu une sorte d'humoriste un peu digital. Je découvrais qui j'étais, quoi, en même temps. Et puis, à la même époque, Kader Aoun, qui est maintenant mon metteur en scène et producteur, est venu à ma rencontre grâce à un ami qui s'appelle Nicolas Plisson, qui nous a connectés. Et puis, il me propose, à la cool, de tester un peu des vannes sur scène. Et puis, il dit, écoute, peut-être qu'on pourra faire des trucs ensemble.
Alors, Kader Aoun, juste pour situer, mais Kader Aoun, qui est notamment connu pour avoir déniché, entre guillemets, et fait connaître Jamel Debbouze à l'époque.
Oui, voilà. Il a déniché et mis en scène les premiers spectacles de Jamel Debbouze. Il a créé le H, il a créé le Burger Quiz, ouais. Qui continue à écrire en ce moment d'ailleurs. Il a fait des millions de choses sur Canal et tout. Et puis surtout, en vrai, il a déniché tous les stand-uppers du moment. Tu vois, c'est lui qui a créé le Jamel Comedy Club, c'est lui qui a lancé Farid, c'est lui qui a créé le Paname. Enfin bref, dans le stand-up, c'est monsieur stand-up en France, quoi. Donc du coup, moi je le connaissais même pas. Et quand on s'est rencontrés, j'ai même dit, bah toi t'es qui? Et il a explosé de rire, tu vois. le petit con prétentieux, tu sais. Mais en fait, je connaissais juste pas, quoi.
Ouais.
Et puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert Wikipédia et j'ai fait, ok, je me suis bien affiché. Je parlais à un monstre. Et voilà. Et puis en fait, on a même si on n'a pas forcément le même âge et la même culture, on a un feeling de ouf, lui et moi. Enfin, surtout dans la comédie, tu vois, il est très cool. Si l'idéal vient pas, on force pas. Lui et moi, on est très pareil à ce niveau-là. Et du coup, on se fait trop confiance. Et il a produit mes deux spectacles. Il les a mis en scène. Et puis on continue à faire des choses. Il m'aide beaucoup à écrire mes vidéos aussi. Tu vois, les dernières, il m'a pas mal aidé.
Mais en fait, tu réponds pas vraiment à la question sur ce qui t'a...
Oh, je suis un con, putain.
Mais non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène? Vraiment, tu sais, d'aller te frotter aux gens. En plus, si vous avez l'occasion, si vous écoutez ce podcast et que vous connaissez pas le Paname, là où t'as testé notamment toutes tes premières vannes, c'est ce fameux café dont tu parlais tout à l'heure qui s'appelle le Paname, qui est un peu une plaque tournante de l'humour à Paris, où t'es très près des gens en plus, tu vois. C'est dans une cave. Qu'est-ce qui te donne envie, toi, de te dire, tiens, je vais essayer d'aller faire ce métier-là et de monter sur scène?
Oui, pardon, bah du coup, j'ai mal fait le lien.
Mais pas du tout.
Du coup, c'est cette fameuse rencontre avec Kader Aoun qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, je suis allé tester au Paname mes premières vannes, qui étaient vraiment à chier. Mais c'est pas grave. Du coup, il m'a tout de suite mis en scène, tu vois, on va dire, de manière informelle. Et puis voilà, petit à petit, j'ai commencé à kiffer de ouf, quoi. Je me suis dit, tiens, je restitue un peu la même vibe que mes vidéos, mais en vrai. Par contre, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. Et aujourd'hui encore, je signe, j'atteste. Je trouve que le stand-up, c'est très dur. C'est génial. Je kiffe de ouf, mais c'est vraiment dur. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à kiffer. Puis je me suis dit, putain, mais ce qu'on fait là, c'est quasiment un spectacle, quoi. J'ai 30, 40 minutes sur scène. Et ça me permettait, en fait, de vivre, entre guillemets, un peu la création et aussi mon certain succès pour de vrai, parce que sur internet c'était presque comme un jeu vidéo, je voyais pas ce qui se passait, quoi. Ma vie elle était pareille, tu vois. Alors certes, on me reconnaissait dans la rue et tout, c'était super, mais je touchais pas du bout des doigts le succès, tu vois. Je restais un mec qui dans sa chambre qui voit un score sur un écran, quoi. Tu vois. Et avec le stand-up, j'ai pu remplir des zéniths, voir des gens faire des standing ovations et tout. Putain, c'était un truc de ouf, quoi. Donc ça prenait vie, en fait. Tout ce travail commençait à prendre vie. Et c'est ça qui... Enfin, ça m'a donné des ailes, quoi. C'était génial. Et puis aujourd'hui, maintenant, je regarde un autre œil, tu vois. Peut-être que le succès, il est moins ouf qu'à l'époque et tout, hein, c'est clair, on va pas se mentir. Même si c'est quand même trop, trop bien, j'ai encore beaucoup de chance. Les salles continuent à se remplir super bien. Mais maintenant, je suis un peu plus zen avec ça, tu vois. J'ai moins envie, enfin, j'ai pas envie de devenir une rockstar, quoi. J'ai envie de faire mon métier, que ça plaise aux gens, que ça se remplisse bien, c'est tout, tu vois.
Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as la sensation que. Comment dire, tu le vois avec un peu plus de recul, c'est ça?
Oui, parce que j'ai l'impression que la première tournée, il y avait. En dehors de ma volonté, mais il y avait ce côté un peu One Direction, quoi. C'est. Les kids, ils étaient super ouf, quoi. Chaque apparition dans les Fnac, c'était la sécurité, elle pétait un câble. On devait annuler le meet-up tellement. Enfin, le mec il s'envoie des fleurs. Enfin, en tout cas, c'était assez ouf, tu vois. Ouais, quand même, on va pas se mentir.
Tu t'envoies pas des fleurs, c'est juste ça se passait comme ça, quoi.
Ah ouais, ça se passait vraiment comme ça. J'ai encore des vidéos. Quand je scroll sur mon iPhone, je fais putain, j'ai vécu ça, moi. C'est ouf. Ça s'est passé tellement vite. Il y avait ce côté un peu, tu vois, mini rockstar, quoi. Alors que bon. Ça restait qu'un spectacle avec des blagues, hein.
Ouais, mais tu sortais dans la rue, en fait. C'est ça aussi qui faisait que, je pense, c'était un peu c'était la folie. C'est que les gens avaient pas forcément, et tes fans n'avaient pas forcément de bonnes occasions de pouvoir te.
Mais voilà.
De pouvoir te
c'est
voir.
C'est clair. Ce spectacle, ça a été un peu, un prétexte pour être sur scène aussi, tu vois. Et tous les gens qui aiment mes vidéos depuis quelques années, ils se disent, putain, mais je vais enfin voir Norman. Peut-être, si ça se trouve, si j'avais fait de la chanson, ou peut-être du jonglage, je serais quand même venu, tu vois. Il y avait différents types de publics. Les fans de stand-up, mais aussi les gens qui venaient parce qu'ils aimaient mes vidéos. Et du coup, il y a eu cette époque qui était un peu l'âge d'or. Et aujourd'hui, par exemple, ma seconde tournée, elle s'est super bien remplie aussi, hein. Maintenant, je suis plus âgé, je sais ce que je veux dans la vie. Et le côté One Direction, il a été un peu gommé. Et au contraire, c'est très bien, tu vois. Je préfère maintenant... être apprécié pour ce que je fais et tout, qu'il y ait dans la salle des gens qui aiment vraiment ce que je fais, et puis moi le côté un peu débordement, quoi.
Ok. T'as l'impression que.
Et même si je le voulais, clairement je pense qu'il n'existerait plus. Mais en vrai, je l'ai eu, je suis content, mais non, c'est cool.
Ah, tu penses qu'il n'existerait plus?
Bah, en tout cas, les salles se remplissent trop bien, je touche du bois, c'est trop cool. Mais oui, je sens qu'il y a. Contrairement à la première tournée, j'étais jeune, le public aussi, il était jeune, c'était un peu le côté YouTube, ça venait d'exploser, tout a explosé en même temps, tu vois. Donc il y avait une effervescence un peu boys band presque, tu vois.
Ouais, je vois.
Mais en vrai, cette image, je l'aime pas trop non plus, quoi. Donc maintenant, ça marche très bien, mais c'est plus cool, c'est plus carré, quoi.
Ok. C'est un peu le spectacle de la maturité, c'est d'ailleurs ça.
Oui, voilà, en vrai, c'est ça, ouais.
C'était fait exprès? C'était pas fait exprès?
un petit peu aussi, en vrai. Hein, ce titre, c'était aussi une manière de... C'était une grosse blague. D'ailleurs, je dis c'était, mais on continue à le jouer. Hein, c'est juste qu'il y a le confinement, malheureusement. Mais ce titre, c'est un peu une blague. Un peu comme l'album de la maturité, mais c'est aussi ça, quoi. Sauf que ça fait 10 ans que je fais des vidéos, j'ai grandi, et maintenant, ce que je fais, c'est un... Bon, je suis toujours aussi couillon, toujours aussi zozo, mais c'est un peu plus mûr.
Ouais, tu continues quand même à faire des vidéos sur Fortnite, mon vieux. Hein. T'as 33 ans. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, tu vois, pour continuer pour jouer à Fortnite, franchement.
Putain, mon niveau, il est pas meilleur.
Tu sais, il y a un truc dont on n'a pas parlé pendant ton interview d'Histoire de Daron et que j'étais en train de zapper là aussi, qui, je pense, pour moi, est un moment important de ta vie, c'est que l'un des trucs qui avait partie de ton existence, c'est que tu as perdu ta maman qui est morte d'un cancer quand tu étais encore adolescent.
Ouais.
Je me demande avec le recul. Alors, déjà, je m'en suis voulu après coup, pendant l'interview d'Histoire de Daron, de ne pas avoir recoupé ça avec le fait de devenir papa, etc. Mais en fait, j'aurais bien aimé. Savoir un petit peu comment, avec le recul, toi, aujourd'hui, maintenant que t'es devenu adulte, je pense notamment peut-être au tu sais, j'ai parfois des auditrices et des auditeurs qui m'expliquent qu'ils ont perdu leur père ou leur mère il y a quelques années, et que c'est dur pour eux. Maintenant que t'es mature, toi, à 33 ans, comment tu vis, toi, ce que j'imagine a été une grosse épreuve pour toi?
Bien sûr, c'était l'épreuve de ma vie, hein, quand tu perds un proche, en particulier un parent, et peut-être même en particulier ta maman, je pense que c'est peut-être le pire. Ça a été un traumatisme qui est encore présent aujourd'hui, mais bon, évidemment, les années passent, les choses se tassent, donc Plus le temps passe, on va dire que je me suis habitué à la vie de sans ma mère, tu vois. Bon, et puis aussi le fait de devenir papa, ça a fait, même si ce sont pas les mêmes personnes, mais j'ai recréé la vie en fait dans ma famille, tu vois. Donc j'ai toujours cette blessure de ma mère qui est partie, et dans un sens j'ai ma fille qui est née, donc j'ai, c'est pas que je pourrais jamais remplacer ce vide, tu vois, affectif du côté de ma mère avec des enfants, mais en tout cas j'ai agrandi un tout petit peu ma famille, et du coup ça a mis un peu de pommade, quoi. Donc ça m'a donné vraiment un comment dire, de l'oxygène, quoi. Le fait de devenir papa, ça m'a fait du bien, quoi, dans ce traumatisme de l'enfance, en tout cas. Donc
okay.
Donc voilà. Puis évidemment, si tu me demandes comment je l'ai vécu, bah je l'ai très mal vécu, comme j'imagine tous les enfants qui perdent leurs parents jeunes, quoi. Dans le malheur, en tout cas, je pense que tu peux que te renforcer, en fait, hein, parce que si tu restes faible face au deuil, face à la perte d'un proche, tu resteras faible toute ta vie. Il y a un moment donné où tu dois te lever, prendre les armes et puis combattre ça, vivre avec le manque affectif, vivre avec le fait d'être différent. Ça forge aussi une personnalité, ça forge, tu vois, cette idée de revanche sur la vie. Je l'ai souvent eu en pensant justement à ma mère que j'ai perdue jeune. Tu vois, je me suis souvent dit, c'est con, mais je vais faire ça parce que j'ai la vie est trop injuste. J'ai une enfance en tout cas à ce niveau-là merdique de ouf. Putain, je veux réussir le reste de ma vie, tu vois.
Ah ouais. C'était un moteur pour toi.
Que je le vois.
Ouais. Je disais, ça a été un moteur pour toi. T'as la sensation avec le recul.
Ouais, ça a été un moteur. Alors bon. Un moteur, on va dire, par dépit, hein,
oui,
parce
oui.
que j'aurais bien aimé que ce soit différent. Mais je pense que ouais, ça donnait un coup de fouet un petit peu, tu vois, et l'envie de foncer, tu vois, de profiter à mort. Et puis j'ai de la rage, quoi. Quand je fais un truc dans ma vie, j'ai la rage, je lâche pas l'affaire, et je pense à ça, quoi. Je pense à, enfin, c'est bête, mais on pense aussi à, c'est un peu égoïste comme sentiment, mais tu penses un peu à tout ce que t'as pas eu dans ton enfance, que c'est trop cruel, quoi. T'as envie de rattraper ça autrement dans le présent et dans l'avenir. C'est pour ça que je me suis toujours battu à fond dans ce que je fais, quoi. Donc pas uniquement pour ça, mais ça a énormément joué, je pense.
Ben merci, Norman.
Et ben merci, mon pote.
Tu vois, on a fini par enlever plein de couches. C'était trop bien.
Bon, ben j'espère que c'était bien.
Ah ouais, merci pour tes mots, c'est très cool. Et aussi d'avoir ton... Ce que tu disais, je trouvais ça très intéressant, ce que tu disais sur le fait d'avoir pris toutes les casseroles dans la gueule en premier, en tant qu'ancien.
Putain, c'est vrai, hein. Je suis dégoûté. En y repensant, je suis dégoûté.
Bah non, parce que en fait, c'est ce qui fait aussi que... Enfin, tu vois, la preuve, vous êtes avec Squeezie et Cyprien, vous êtes dans le top 3, quoi, tu vois.
Oui, c'est vrai. Bon, après, j'ai pas à me plaindre, c'est super. Hein.
Il y a la primo prems, tu sais, souvent dans le. Ils disent souvent ça dans le marketing.
ouais, c'est clair et net. C'est comme ces produits, ouais, c'est ça, c'est les produits qui sortent, qui font un carton et finalement qui sont remplacés par le même en mieux, par Apple. C'est ça que tu veux dire, non?
Mais non, au contraire, c'est que c'est souvent quand t'arrives sur un. Je pense que quand t'arrives en premier sur un marché, en marketing, t'as souvent une prime, en fait, ce qui parce que t'es premier, tout simplement, quoi, tu vois.
Ah oui, d'accord, ok, pardon.
Non, c'était pas pour te dévaluer.
Non, putain, ce mec il a aucune confiance en lui.
Arrête de faire ça, s'il te plaît.
Putain, c'était, faut que j'arrête tout. Là, faut que je reprenne un peu confiance là. Non, mais en tout cas, c'était trop sympa, comme d'hab. C'est des discussions complètement normales qu'on pourra avoir même s'il n'y a pas d'enregistrement.
Ouais, c'est cool.
Et j'espère que ça va intéresser un petit peu les gens.
J'en suis sûr. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Et tu sais quoi, je remarque épisode après épisode, à chaque fois quand ça m'intéresse, en fait, ça intéresse les gens. Donc, comme quoi,
c'est
un bon truc.
Ah, trop bien.
Bah, je te souhaite
plein de courage pour la. Allez mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes et abonnez-vous absolument à ce podcast, s'il vous plaît.
Merci pour cette pub.
À chaque fois, je le fais, hein, t'as remarqué. Hein.
Et bah, de cette là, toi, pour parler un petit peu de ton avenir un peu plus proche, mais c'est pas gagné là pour repartir en tournée là pour toi tout de suite là.
Ah ouais, c'est pas gagné du tout. On a dû reporter toutes les dates de la tournée. En plus, Bref, ça, c'est un peu chiant pour moi parce que j'avoue que j'étais, ça faisait 2 ans que je travaillais ce spectacle et j'étais vraiment dans l'énergie, dans l'élan. On a commencé à faire 4 dates qui sont super bien passées, remplies et tout. Et puis à la 4e, on fait ouais, finalement, on refait tout ça dans 1 an. Putain, ça m'a mis un coup au moral de ouf. Bon bref, chacun voilà, a vécu le truc à sa manière, hein. Je suis pas le plus à plaindre, mais c'est vrai que ça m'a bien fait chier. Donc ce sera voilà, dans 1 an, malheureusement, je rejouerai ce spectacle dans la France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Mais du coup, on va en profiter pour encore plus l'améliorer. On va pouvoir, dès que ça va se réouvrir les salles de spectacle, donc peut-être en septembre, hein, je me remets au taf et on va encore plus le booster, quoi.
Ouais, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Norman pour tout ça.
Si
vous connaissiez pas Norman, que se passe-t-il? Mais je vais quand même vous mettre des liens pour pouvoir aller voir les vidéos dont on parle, etc. Mais en tout cas, un grand merci à toi. C'était vraiment cool de retracer avec toi ton parcours comme ça, quoi. Merci
beaucoup. Trop bien. Merci à toi. Et puis à plus tard.
Bah
si
ouais.
t'as un troisième podcast, invite-moi.
Ça marche.
Le mec. Ok.
À bientôt.
Bon, gros bisous à tout le monde et puis bisous à toi.
Salut. Merci
Ciao.
Beaucoup.
Salut.